Les écologistes, première force politique du Bade-Württemberg, avaient l'embarras du choix entre une alliance dite tricolore avec les sociaux-démocrates et les libéraux et une coalition dite vert-noir avec les chrétiens-démocrates. Ils ont choisi la stabilité. Ils veulent continuer à travailler avec les conservateurs de la CDU. Cette décision a surpris et même suscité la colère des jeunes écologistes. La direction des Verts à Stuttgart, elle, mise sur un partenaire conservateur affaibli depuis les élections du 14 mars. Les écologistes pourraient obtenir de vastes concessions de la part de la CDU en termes de politique climatique. À 6 mois des élections générales, le choix des Verts de Stuttgart signale...
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible.
J'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas...
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditrices et auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous lire des extraits du roman « Le chagrin des vivants » de l'auteure anglaise Anna Hope, publié chez Gallimard en 2016. Début novembre 1920, l'Angleterre attend l'arrivée du soldat inconnu rapatrié depuis la France. À Londres, 3 femmes vont vivre ces journées, chacune à leur manière. Hetty travaille au Hammersmith Palais, où elle danse pour subvenir aux besoins de sa mère et de son frère traumatisés par la guerre. Ada croit sans cesse apercevoir son fils pourtant tombé au front. Evelyn, dont le fiancé a été tué, travaille au bureau des pensions de l'armée. Dans ce pays où les hommes se heurtent à l'incompréhension de ceux qui n'ont pas partagé leurs souffrances, les femmes sont tiraillées entre l'impossible oubli et l'envie de retrouver une vie normale.
Il écrase sa cigarette dans un cendrier à proximité et se tourne vers elle. Que diriez-vous de danser avec moi?
Si vous voulez.
Il y a moins de danseurs à présent. Ils peuvent donc se diriger directement au milieu de la piste. Une fois arrivé, l'homme met les mains en l'air. C'est un geste étrange. Pas tant celui d'un homme qui entame une danse que celui d'un homme désarmé. Hetty place une main dans la sienne, l'autre sur son manteau de soirée très ajusté sur son dos. Il sent le citron et la cigarette. Elle a vaguement le tournis, c'est peut-être l'alcool. La magnifique trompette sentimentale joue désormais en sourdine et le groupe reprend de plus belle. La musique se met en un ragtime, un one step. 1, 2, 1, 2. La piste se remplit. Les gens se pressent autour d'eux, ils poussent des cris de joie, tapent des mains, redonnent vie à la musique à coups de semelles. 1, 2, 1, 2. Il avance vers elle et tu recules. Et c'est là, dans ce premier mouvement minuscule, le flash de la reconnaissance, oui, ce sentiment rare qu'elle a quand quelqu'un s'est bougé. Puis la musique éclate et ils dansent ensemble à travers la piste. Bon groupe ce soir, commente-t-il par-dessus le bastringue. Américain, j'aime bien les Américains.
Moi aussi.
Ah oui ? Il hausse un sourcil. Qui avez-vous donc vu ?
Les Original Dixies.
Les Dixies ? Mince alors ! Il semble impressionné. C'était les meilleurs. Il place une jambe entre les siennes en vue de la vrille. Où les avez-vous vus ?
Au palais à Mersmith.
Au palais. Je suis danseuse de compagnie là-bas. Il sourit, puis son front se plisse de nouveau comme en proie à un souvenir.
Pas dans cette horrible boîte en métal quand même.
Elle sent le tressaillement familier de la honte. J'ai bien peur que si.
Ma pauvre, l'enclos, cette horrible boîte en métal, où Dee et elle s'asseyent, prises au piège, aux côtés de 10 autres filles, jusqu'à être engagées, pendant que les hommes sans partenaire rôdent de long en large en se demandant si c'est vous qu'ils veulent, si vous valez leur suspense pour un tour de piste.
L'homme se penche en arrière, comme pour mieux la regarder.
« Vous n'avez pas l'air du genre de fille qu'on engage. »
Se moque-t-il à nouveau d'elle ? Cela pourrait être un compliment, mais elle n'en est pas sûre.
« Je m'appelle Ed, au fait. Très grossier de ma part. J'aurais dû me présenter avant. »
Ada. Elle se dirige vers le feu, la tise vite, puis passe rapidement derrière l'homme vers le tiroir qui contient le porte-monnaie. Elle se retourne pour voir s'il la regarde, mais il lui tourne le dos, aspirant sèchement de courtes bouffées. Elle fait coulisser le tiroir le plus discrètement possible, s'empare de son porte-monnaie, fouille à l'intérieur, quand soudain il y a un bruit, une sorte de cri étranglé. Elle fait volte-face et le voit contempler le vide devant lui, courbé en avant, tout son corps cherchant à s'approcher d'une chose qu'elle ne peut pas voir. « Michael, » dit-il. Puis sa tête tressaute, une fois, deux fois, comme prise dans un courant sauvage, et s'immobilise. Ada laisse retomber le porte-monnaie dans le tiroir. « Qu'avez-vous dit ?» Elle se place face à lui. « Rien. » Le garçon tressaille, secoue la tête. « Rien, je n'ai rien dit du tout. »« Si. » Malgré son cœur qui palpite, elle parle lentement. « Je vous ai entendu. »« Rien du tout. » Il se lève, écrase sa cigarette, s'éloigne un peu d'elle à pas de crabe. « Vous avez dit Michael. » Alors le garçon commence à convulser et les convulsions se répandent jusqu'à ce qu'il fasse une crise presque dans des spasmes horribles. Et c'est affreux. Elle devrait l'aider, mais il est terrifiant. Elle ne peut pas. Et donc elle reste là, bloquée, jusqu'à ce que les tremblements passent et qu'il s'immobilise. Il lui faut un moment avant de pouvoir parler. « Pourquoi avez-vous dit Michael ?» Elle essaie de prendre une voix légère, facile. Elle veut qu'il reste là. « Rien du tout. » Le garçon s'empare brusquement de ses paquets. « Je n'ai rien dit du tout. J'ai juste frappé à votre porte. Je vends juste des trucs, pas vrai ?» Et il lui présente ses petits paquets minables avant de les fourrer dans son sac. « Vous avez dit Michael. Vous le connaissiez ?»« Non, pas du tout. » Sa tête balance violemment de droite à gauche. « Je ne connais aucun Michael, non. »« Arrêtez, » réplique-t-elle. « Arrêtez ça. Vous le connaissiez. Vous connaissiez mon fils. » Mais le mouvement de balancier ne fait qu'accélérer jusqu'à ce que le garçon fasse quelques pas vers elle et lui attrape une main qu'il se met sur la tête. « Je suis désolée, » dit-il, en appuyant fort la main d'Ada sur son crâne. « Je suis désolée, madame. » Puis il quitte la pièce en trébuchant. Pendant un instant, elle ne bouge pas, sentant sur elle ce contact brûlant, palpitant. Puis elle traverse l'entrée au pas de course, sort de la maison et lui crie de s'arrêter. Mais il n'y a personne dans la rue calme du dimanche. Le garçon a disparu, comme s'il n'avait jamais été là.
Evelyne. Quand son quatrième homme approche du bureau, elle sait d'un seul coup d'œil que des problèmes s'annoncent. « Vous êtes prête à me recevoir maintenant, alors ?» demande-t-il en s'asseyant face à elle. Il y a quelque chose chez lui, une confiance, une posture. « Officier ?» Son accent est indéterminé. Elle aligne les formulaires le long de l'arête de son bureau. « Grade ?» Difficile à dire. Elle n'arrive pas à qualifier celui-là. « Non ?» Reginald Yates. Grade, sous-lieutenant, ex. Elle écrit Reginald Yates en haut d'un formulaire rose. Et c'est votre première visite au ministère? Non, ricane-t-il. Je ne dirais pas ça, non. Il a un visage en lame de couteau, des cheveux bruns soigneusement gominés pour dégager son front, une moustache impeccable. Difficile de lui donner un âge. Il pourrait avoir 25 ans ou aussi bien 10 de plus. Il y a quelque chose d'agité, de hérissé chez lui. Evelyne a l'habitude maintenant d'évaluer le danger susceptible de lui tomber dessus. Une femme fut agressée une fois, il y a un an, par un homme armé d'un couteau. Sa dernière collègue femme. Après avoir passé la nuit à l'hôpital, elle n'est jamais revenue. « Je touche moins », explique-t-il en extirpant un paquet de tabac de sa poche avant de se rouler lestement une cigarette. Elle glisse le cendrier devant lui. « Moins d'argent, vous voulez dire ?»« Oui ?» Il allume sa cigarette et recrache la fumée entre eux. « Cela arrive, j'en ai peur, Mr. Yates. » Les yeux de l'homme croisent les siens à travers la fumée. « Puis-je vous demander quelle était votre blessure ?»« Non, vous ne le pouvez pas. » À ces mots, elle s'aperçoit que son impudence a quelque peu perdu de son éclat. « D'accord, » dit-elle, « comme vous voudrez. » Les fesses, alors, ou l'entrejambe. Ce sont ceux qui ne veulent jamais le dire. Il se penche en avant, fendant l'air de son index tout en parlant. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que je palpais 17 shillings par semaine et que maintenant j'en ai moins. Son accent, remarque-t-elle, lui échappe un peu à présent. Ma foi, réplique Evelyne, sachez, Mr. Yates, que pour ce que le ministère appelle les blessures de deuxième ordre, à savoir tous les types de blessures qui n'impliquent pas la perte d'un membre, les indemnités baissent au bout de 3 ans. Puis-je vous demander quand la blessure est survenue ? 1917. Elle ouvre les mains. Alors c'est ça. Je suis désolée, Mr. Yates. Vous pouvez bien entendu remplir une demande d'appel. L'homme crache un brin de tabac par terre. C'est tout ? C'est tout, j'en ai peur. Vous n'allez pas me dire si je vais toucher davantage. Evelyne soupire. Ça la stupéfie encore d'être là, porte-parole d'un comité qui considère toute demande comme suspecte, tout homme comme un simulateur, coupable jusqu'à preuve du contraire, obligé de quémander des bouts de chandelle à un gouvernement qui a depuis longtemps cessé de se préoccuper d'eux. Je suis désolé, Mr. Yates, mais nous ne constituons qu'une première étape. Si vous souhaitez remplir une réclamation officielle, alors nous pouvons enregistrer cette réclamation et la faire suivre. Vous devriez obtenir d'ici la fin du mois un rendez-vous pour une réévaluation qui comprendra un examen médical. À la fin du mois ? Il se penche en avant, imitant son accent. À ce jeu-là, remarque-t-elle, il n'est pas mauvais du tout. Je parie que vous adorez ce boulot, hein ? Montez là sur vos grands chevaux. « Évidemment, » répond-elle en s'adossant. « Et vous voulez savoir pourquoi ?»« Pourquoi ?» Elle se penche de nouveau en avant. « Parce que je suis une sadique. » Il ouvre la bouche, la referme. « Salope » marmonne-t-il dans sa barbe, en se levant. Les pieds de sa chaise raclent le sol. « C'est ça, Mr. Yates. Je suis une salope sadique. » Sur ce, elle tend la main et, sans lever les yeux, repose la fiche rose sur la pile à remplir. « Suivant !»
vous dit de marcher ? J'en aurais bien besoin. Je suis restée cloîtrée ici pendant des heures à vous attendre. Elle n'est pas habillée pour marcher, elle est habillée pour danser. Elle va avoir froid. Et sa robe et sa nouvelle coupe, sa toute nouvelle personne partiront à volo. Je déteste cet horrible club. D'accord, finit-elle par répondre, car franchement, qu'y a-t-il d'autre à dire ? Il est plus sûr probablement dans un sens d'être dehors. Ils quittent la ruelle sombre, reviennent vers Charing Cross Road, encore animés par les lumières des restaurants et des théâtres. Ed marche rapidement, comme s'il était pressé. Elle doit faire de grandes foulées pour rester à sa hauteur. Mais quand ils atteignent la bouche de métro, il s'arrête et se tourne vers elle. « Écoutez, dit-il, j'ai la flemme de faire tout ça. Et vous ?» C'est comme s'il venait de la gifler. « Je suis désolée, réplique-t-elle avec un mouvement de tête. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » Tous ces préliminaires, toutes ces bêtises par lesquelles il faut passer, enfin, vraiment, et vous ? Je ne comprends pas. Il s'approche. Ce truc qui nous sépare, ne croyez-vous pas que pour une fois, nous devrions tout juste dire la vérité ? Expliquer ce qu'on a vraiment sur le cœur, bon sang ? Elle reste silencieuse, le cœur battant. « Désolé, dit-il en jetant son mégot, qu'il regarde valser. C'est juste que j'ai eu une journée un peu bizarre. » Il se passe la main dans les cheveux et s'allume aussitôt une autre cigarette. « Je peux vous demander quelque chose, ajoute-t-il. Est-ce qu'on peut passer un pacte, juste ce soir ? Ne rien se dire qui ne soit pas franc. Est-ce qu'on peut faire ça, s'il vous plaît ? » ?»«
Oui. » »«
Très bien, acquiesce-t-il. » Alors je vais commencer, et ensuite ce sera à vous. Hetty a l'impression de se retrouver sur l'un de ces manèges de fête foraine où l'on a hâte de monter et qui provoque ensuite, dès le premier tour, cette peur nauséeuse, familière, au creux du ventre, qui fait qu'on finit par se demander pourquoi on voulait monter dessus. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai rencontré une fois, dit-il. Et depuis que je vous ai vu, ce soir-là, au club, j'ai eu envie de vous embrasser. Elle a la tête qui tourne. Puis-je vous embrasser maintenant ? Demande-t-il, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas de meilleur moment. Il s'avance vers elle et elle ferme les yeux alors qu'il attire sa bouche vers la sienne. Il a un goût de whisky. C'est un baiser d'une adorable délicatesse. Merci. Murmure-t-il en se reculant. Quand elle ouvre les yeux, il la dévisage d'une expression plus douce, comme si un poids venait de lui quitter. À vous maintenant de dire quelque chose de vrai. Je ne veux entendre que de vraies choses. Elle n'est pas sûre d'être déjà prête à parler avec cette bouche qui a été embrassée par cet homme. En réalité, ce dont elle a envie, c'est d'être embrassée de nouveau. Elle essaie de réfléchir, mais ses pensées sont toutes embrouillées. « Je ne sais pas, réplique-t-elle en secouant la tête. Je ne suis pas sûre. »« Ça, dit-il en reculant le doigt pointé. Quoi ? Cette chose que vous vous êtes retenu de dire, à l'instant, cette chose, dites-moi ça. » Hetty déglutit. « D'accord. » J'allais dire que j'ai bien aimé ce que vous aviez dit ce soir-là au club à propos de faire sauter des bombes. Mon Dieu, vous devez me croire timbré. Elle pense à Fred, qui se ratatine jusqu'à la vacuité, assis dans le fauteuil de leur père, aux cris terribles qui s'échappent de lui la nuit, à sa mère, furieuse et seule, qui se renferme toujours plus. Elle secoue la tête. « Moi aussi, je veux faire sauter des bombes. » Il rejette la tête en arrière et s'esclaffe. « Merci pour ça. »
Ada. « Je vais fort bien. » Ce furent les dernières nouvelles qu'ils eurent de lui, 14 septembre 1917. Ils épluchèrent le journal, mais cette fois-ci, il n'y avait rien sur sa compagnie. Rien sur une quelconque action dans laquelle elle avait été impliquée. Aucun indice. Au fond de la boîte se trouve une lettre dans une petite enveloppe brune. Elle la sort et la tient dans ses mains. Pour quelque chose d'aussi lourd, elle ne pèse rien du tout. Elle arriva un lundi de septembre, par une journée d'été indien. Ada étendait les draps sur le fil, des femmes faisaient la même chose dans toute la rue, leur jardin enguirlandé de blanc claquant au vent. Elle n'entendit pas le cliquetis de la boîte aux lettres, et quand elle revint dans l'entrée obscure, elle parvint tout juste à discerner la forme d'une enveloppe qui gisait sur le paillasson. Elle se baissa pour la ramasser et vit le cachet officiel, le nom de Jack en caractère noir. Elle la laissa tomber par terre et ressortit aussitôt. Ce qu'elle se rappelle ensuite, c'est d'être debout dans la cuisine, avec les ombres qui s'allongeaient autour d'elle et l'entrée de Jack dans la pièce, qui brandissait la lettre, lui demandait de s'asseoir. « Ne l'ouvre pas !» dit-elle. Mais il l'ouvrit. Elle observait son visage à mesure qu'il lisait. Ses yeux, à mesure qu'il progressait sur la page. Arrêt, retour au début, et dans ses mouvements minuscules, elle sentit sa vie, son avenir se contracter et s'effondrer. « Ce n'est pas vrai. » Il posa la lettre sur la table, la poussa vers elle. Elle regarda les mains de son mari, les touffes de poils noirs sur le dessus de ses doigts. « Il faut que tu la lises, Ada. » Elle la lui prit des mains. « Cher Mr. Hart, je suis au regret de vous annoncer que votre fils Michael a péri des suites de ses blessures le 17 septembre. Bien à vous. » C'étaient les seuls mots frappés sur cette page. Pas même un nom, juste une signature en bas mais floue, comme si elle avait été tracée à la hâte ou sous la pluie. « Ce n'est pas vrai, » répéta-t-elle en regardant Jack. « Je l'aurais su, sinon ce n'est pas vrai. » Aucune autre lettre n'arriva, rien pour leur expliquer comment leur fils était mort. Jack écrivit à la compagnie de Michael, mais ils n'obtinrent pas de réponse. Tout le monde recevait deux lettres, tous ceux qu'elle connaissait qui avaient perdu quelqu'un. La plupart recevaient même plus que ça. Une lettre écrite par une personne présente au moment du décès, une personne qui avait des mots de consolation, quelques menus détails à transmettre. Elle était persuadée qu'il y avait eu erreur. Pendant quelque temps, les gens l'arrêtaient dans la rue pour lui signifier qu'ils étaient désolés, que son fils lui faisait honneur, comme si par sa mort, il avait quelque part remonté la côte de sa mère. Elle restait plantée là, à les écouter, jusqu'à ce qu'ils passent leur chemin. Elle ne sortit pas sa robe de deuil, emballée dans un coffre au pied de son lit, pliée avec des boules de naphtaline et du papier de soie, celle qu'elle avait portée la dernière fois pour sa mère, 20 ans auparavant. Et puis durant l'hiver 1918, quand la guerre fut terminée, les garçons commencèrent à rentrer chez eux. Ils étaient partout, tout à coup, fourmillant dans les rues, vêtus de leurs costumes de démobilisés et de leurs manteaux à 15 shillings. C'était comme si quelque magie contraire s'était produite, là-bas, en France. Comme si, loin de mourir, il s'était épanoui, là-bas, dans les champs bourbeux, engendré de nouveau dans le sol fertile. Les journaux débordaient d'anecdotes, de miracles. Des garçons qui s'étaient cachés derrière les lignes ennemies avaient fait tout le chemin du retour chez eux à pied. Des garçons qui, sans même savoir que la guerre était finie, étaient apparus dans leur jardin, déguenillés, crasseux, pile à l'heure pour le dîner. C'est à cette époque qu'elle le vit pour la première fois, près d'un groupe de gars à un coin de rue, de dos. Elle le rejoignit, il se retourna, mais ce n'était pas lui, et elle s'éloigna à la hâte, en nage, tremblante. Puis quelques jours plus tard, il était là, bras dessus, bras dessous, avec une fille dans le parc. Elle s'élança à sa poursuite en le hélant. Ce n'était pas Michael. Ça se reproduisait sans arrêt. Elle lui courait après, ne s'arrêtant que lorsqu'elle voyait qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre, quelqu'un de la même taille, avec la même inclinaison de la tête ou la même couleur de cheveux. Ou alors, le garçon qu'elle suivait disparaissait purement et simplement. Souvent agitée la nuit, elle laissait Jack dormir et grimpait dans le lit de son fils, s'allongeant sur le matelas étroit dans la chambre étroite avec les photos de football collées au mur. Elle commença à le voir dans cette pièce,
Elle se réveillait et découvrait qu'il était avec elle, assis sur le lit. Elle n'était jamais surprise. Elle tendait le bras vers lui, mais il levait la main comme pour l'arrêter. Des ombres se déplaçaient non loin d'eux. « Qui sont-ils ?» lui demandait-elle. « Chut !» Il portait un doigt à ses lèvres et souriait. « Ne t'inquiète pas, maman, ils sont gentils. Ils sont morts, c'est tout. » Un jour, vers la fin du long hiver de 1918, un docteur vint à la maison. Il lui fit une piqûre, une brève égratignure sur son bras. Quand elle revint à elle, elle était de retour dans la chambre qu'elle partageait avec Jack, et Jack était assis dans le fauteuil dans un coin. La lumière était claire et froide. Il vint vers elle et l'aida à se relever. « Ça va maintenant, » dit-il. Ce n'était pas une question. En allant vers l'escalier, ils passèrent devant la chambre de Michael. La porte était ouverte, la pièce complètement dépouillée. Seuls les espaces blancs et les bords plus sombres trahissaient l'ancien emplacement de ses photos de football. Seuls les minuscules taches de farine et d'eau dont il s'était servi comme d'une colle. Le regard d'Ada passa de la chambre à son mari. « Où sont ces affaires ?» Elle avait l'impression d'avoir une langue trop grosse pour sa bouche. « Je les ai enlevées. » Il avait l'air à la fois coupable et pugnace, la mâchoire serrée. Elle pensa alors qu'il la haïssait. Mais même la haine semblait distante, comme destinée à quelqu'un d'autre. Proche, mais difficile à atteindre, comme piégée derrière un panneau de verre.
Evelyne. Alors, finit-elle par dire, comment trouvez-vous le boulot ? Comment je trouve le boulot ? Il s'adosse sur sa chaise. « Ma foi, c'est beaucoup de choses. » Il fait tourner son verre dans ses mains. « Par certains côtés, plus dur que ce que j'imaginais. Par d'autres, plus simple. Je suis surtout juste content d'avoir un emploi. Ce n'est pas des plus faciles avec ça. » Il désigne sa jambe. Evelyne y porte brièvement les yeux. Pendant un instant, elle se demande à quoi elle ressemble. Le plastique au lieu de la chair. Ce que ça a dû être de s'y habituer. Et c'est mieux que de vendre des magazines au porte-à-porte ou des allumettes dans la rue. Il se penche, serrant son verre dans son poing. J'ai vu un homme l'autre jour. Il avait un orgue de barbarie et sur le côté de son instrument étaient collées les photos de tous ses enfants. Combien ? J'en ai compté 9. Elle émet un sifflement grave. Et à côté de tout ça, une liste de ses états de service. Où ça ? La Somme et ailleurs. Toute la guerre, d'après ce que j'ai compris. Mon Dieu ! Elle s'empare d'un sous-verre qu'elle déchire en deux. Ça me met en rogne. C'est comme si on marchait autour d'une fosse, tout sautant qu'on est. Un de ces horribles cratères de bombes au beau milieu de la ville. Sauf qu'un million d'hommes sont à l'intérieur et que personne ne regarde. Les gens se contentent de passer à côté en sifflotant, en faisant mine de ne rien voir. « Je ne suis pas sûre qu'ils ne voient pas, » réplique-t-il doucement. « Bon, d'accord, » concède-t-elle, en levant les yeux sur lui. « Peut-être pas ça, mais le simple fait que ces hommes soient là me fait bouillir de rage, réduit à mendier dans la rue. Ce sont toujours les plus âgés qui me touchent le plus. Ils sont là, vêtus de leurs plus beaux costumes et de leurs plus beaux chapeaux, et ils ont l'air si patients. Et ils ont tous tellement, tellement de dignité. Et nous, on ne fait que... » Elle laisse mourir sa phrase en secouant la tête. « Alors pourquoi travaillez-vous pour eux ? Pardon ?» Le même air de défi sur son visage. « Les gens qui les mettent là. Si ce n'est pas le service des pensions, alors qui est-ce ? Certainement que si la distribution était plus équitable, alors... Vous confondez le messager avec le message. Peut-être, mais vous pourriez toujours faire autre chose. Peut-être que oui. Elle s'adosse, ouvre les mains. Que suggérez-vous ? Il hausse les épaules. Il doit y avoir un paquet d'emplois de bureau sur le marché. C'est faux, vous le savez aussi bien que moi. Surtout pour les femmes, plus maintenant. Sont-ils en train de se disputer ? Elle n'en est pas sûre, mais c'est l'impression que ça donne. Elle est remontée. « Depuis combien de temps travaillez-vous là, alors ?» demande-t-il d'un ton plus doux, conciliateur. « 2 ans. »« Et avant ça ? Avant le bureau ou avant la guerre ?»« Les deux. »« Vous pouvez commencer par le début, si vous voulez. » Elle part d'un petit rire. « On y passerait la nuit. » Ma foi, dit-il, en jetant un œil au verre vide d'Evelyne et au sien à demi plein, nous pouvons certainement commander une deuxième tournée. Oui, sourit-elle, j'imagine que oui. Il finit son verre, se lève et se dirige vers le bar. C'est difficile, en le regardant marcher, de voir qu'il a une jambe artificielle. Il se déplace étonnamment bien. Depuis combien de temps avez-vous cette jambe, s'enquiert-elle, alors qu'il approche de la table? Elle regrette aussitôt sa question, pourtant il ne sait pas. 3 ans. Il pose les verres. Cela dit, ça m'a pris un moment avant d'en trouver une qui convenait. Mais attendez un peu, s'exclame-t-il, un doigt levé. Nous n'avons pas encore fini. Vous vous apprêtiez à me raconter ce que vous faisiez avant ce boulot. Des munitions. Il hausse un sourcil, semble surpris. Et comment c'était? Dur? Assez, oui. Et avant ça? Avant ça, je suis tombée amoureuse. J'ai emménagé à Londres, en colocation. J'ai papillonné. Je me disais que j'avais tout le temps de me décider. Et ensuite, la guerre est arrivée et... Elle le regarde. Il l'observe si attentivement qu'elle est obligée de détourner les yeux. Le temps qu'elle se termine, j'étais là. Elle prend une moitié de son sous-vert déchiré qu'elle déchire à son tour en deux. Robin? Oui? Ce groupe du sud des États-Unis dont vous avez parlé, jeudi, c'est ça? Comptez-vous toujours aller les écouter? Elle n'arrive pas à en croire ses oreilles. Elle n'arrive pas à croire que ces mots sortent bel et bien de sa bouche. Où avez-vous déjà trouvé quelqu'un d'autre pour vous accompagner? Oui, je compte toujours y aller. Il semble surpris, content. Et non, je n'ai trouvé personne, non. Eh bien, voudriez-vous, je me demandais, peut-être pourrais-je venir après tout?
Ada savait qu'il y a un bout de terrain qui renferme le corps de son fils, elle n'irait pas se plaindre à propos d'argent. Elle économiserait tout ce qu'elle a jusqu'à pouvoir se rendre sur place, s'asseoir à côté de cette parcelle d'herbe, poser les mains dessus. C'est l'absence de corps. Si elle avait eu ça, au moins. À la mort de son père, Ada avait 8 ans. Debout sur le seuil de la pièce du rez-de-chaussée dans laquelle il avait été déplacé, elle le regardait fixement qui gisait sur le dos. Pourtant corpulent, il semblait menu sur la table, comme si la mort avait emporté de lui davantage que la vie. Sa mère lui demanda de faire bouillir un seau d'eau, d'aller chercher un gant de toilette et de l'apporter dans la pièce. « Tu peux y aller maintenant », déclara-t-elle en lui effleurant le dessus du crâne et en refermant la porte. Mais Ada resta écoutée, l'oreille collée contre le bois. Elle entendait le tissu qu'on trempe dans l'eau, les menus bruits de la toilette et sa mère qui sanglotait doucement. Quand celle-ci ressortit de la pièce, son visage était paisible, comme si lui aussi avait été purifié. Même à l'époque, Ada comprenait qu'il y avait du sens à ce cérémonial. Pas comme ça, cela dit, pas comme ce vide. Pas de corps, pas de tombe. Si elle avait eu le corps de Michael à la maison, elle l'aurait lavé. Qu'importe les blessures, qu'importe les os brisés, elle l'aurait lavé délicatement comme elle le faisait quand il était bébé, quand il était enfant. Et à défaut, si ce rite ultime lui est refusé, à elle et à elle toutes, toutes les mères, épouses, sœurs, amantes, alors savoir où le corps gît dans la terre au moins. Le vent lui fouette les cheveux en travers du visage. Elle sait qu'elle devrait laisser tomber, que Jack a raison, qu'elle devrait arrêter de gratter, de rogner cette plaie qu'elle n'arrive pas à laisser guérir. Mais il refuse de la lâcher. Son fils refuse de la lâcher. Elle a l'impression qu'il la tire d'un coup sec sur sa manche, comme quand il était petit.
Ces extraits du Chagrin des vivants de Anna Hope ont été lus par Guylaine, Monique et Marie-Paul. Claude Michel a assuré le montage. Quelques notes de Ragtime et des extraits de Rhapsody in Blue de Gershwin ont ponctué la lecture. Si ces extraits vous ont plu, n'hésitez pas à découvrir ce premier roman d'une grande maturité et pourquoi pas les autres titres du même auteur, La salle de bal et Nos espérances. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Restless and ready to fight.